Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ebola à Bounia, on souffle un tout petit peu. Les 5 cas suspects signalés à la prison centrale se sont avérés négatifs après analyse. Les acteurs sur terrain souhaitent tout de même qu'un centre d'isolement et de transit soit créé à la prison pour prévenir tout risque. On s'oriente peut-être vers une meilleure gestion des relations entre bailleurs et locataires dans le pays. L'Assemblée nationale a adopté mercredi une proposition de loi modifiant le régime de baux à loyer non professionnel. Parmi les innovations, le paiement du loyer en francs congolais. Comme invité, Rachel Omouloulou, point focal de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité dans le Nord Kivu. Cette structure mène un plaidoyer pour l'implication de ses représentantes dans le processus politique en cours entre le gouvernement congolais, rwandais et la FC M23. Madame, Monsieur, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Les 5 cas suspects d'Ebola signalés en début de semaine à la prison centrale de Bounia sont déclarés négatifs après des analyses en laboratoire. Malgré cette évolution rassurante, les acteurs de la riposte recommandent la mise en place d'un centre d'isolement et de transit au sein de l'établissement pénitentiaire. C'est pour prévenir tout risque de propagation de la maladie. De son côté, l'administration pénitentiaire affirme avoir renforcé des mesures de prévention pour protéger les détenus. Isaac Rimou nous en parle.
Les 5 détenus de la prison centrale de Bounia, considérés comme des cas suspects d'Ebola, ont été déclarés négatifs après les analyses des laboratoires. Une nouvelle accueillie avec soulagement par les autorités pénitentiaires et la population, d'autant plus que ces détenus s'étaient évadés après leur transfert vers les centres de traitement de Rwampara et de l'hôpital général de référence de Bounia, suscitant des inquiétudes quant à un éventuel risque de contamination. Le directeur de la prison indique que les mesures de prévention ont été renforcées, notamment pour les visites. Camille Zonzi.
J'étais comblé de joie par rapport à ces résultats. Étant donné que le résultat est négatif, vraiment, je suis protégé. À moi aussi de protéger les gens qui viendront pour qu'ils ne viennent pas avec la maladie à la prison.
Malgré ces résultats rassurants, les équipes de riposte estiment que la création des centres d'isolement et de transit au sein de la prison demeure une priorité afin de mieux gérer d'éventuels cas suspects. Selon l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, les démarches sont déjà en cours. Des équipements de protection ont également été fournis et des séances de sensibilisation sont régulièrement organisées pour les détenus. Une coordination regroupant l'OMS, la MONUSCO, le CICR est aussi opérationnelle à la prison. Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Nous restons à Bounia. Plusieurs structures sanitaires ayant enregistré des cas suspects d'Ebola sont temporairement fermées sur décision des autorités sanitaires. Cette mesure vise à permettre la désinfection et l'assainissement des installations afin de prévenir toute propagation de la maladie. Les patients suspects sont transférés vers des centres de traitement d'Ebola, tandis que des malades ont été réorientés vers d'autres structures de santé. Ces informations qu'Isaac Remo a collectées sont rendues par Jude Mister Bilanda.
Au moins 6 importantes structures sanitaires privées et conventionnées ont temporairement suspendu leurs activités. À l'entrée de ces établissements, des avis annoncent une fermeture temporaire pour des travaux de désinfection et d'assainissement. Selon des sources médicales, tous les cas suspects d'Ebola recensés dans ces structures, y compris certains cas mortels, dont 3 médecins, ont été transférés vers les centres de traitement d'Ebola de l'hôpital général de référence de Bounia et de Rwampara. Les patients souffrant d'autres pathologies ont quant à eux bénéficié d'une prise en charge minimale avant d'être renvoyés à domicile ou orientés vers d'autres structures sanitaires. Les autorités expliquent que cette mesure vise à interrompre toute chaîne de contamination dans des établissements où plusieurs cas suspects ont été signalés. Cette situation réduit la capacité d'accueil des malades dans la ville de Bounia. Elle suscite également des inquiétudes parmi certains patients, notamment les femmes enceintes venues pour un accouchement qui craignent une éventuelle exposition au virus. Selon les autorités sanitaires nationales et provinciales, la plupart de ces structures devraient reprendre leurs activités dans les prochains jours après une évaluation des mesures de désinfection et de prévention mises en place.
Toujours dans le cadre des mesures préventives visant à freiner la propagation du virus d'Ebola, les autorités ougandaises décident de fermer la frontière avec la RDC au niveau du village en Pondwe dans le Nord Kivu. Mais bien évidemment, cette fermeture a un impact sur la vie des habitants de ce coin du pays. Depuis 2 jours, la situation socio-économique à Kassindi-Luberia devient préoccupante avec une hausse notable des prix de produits de première nécessité. La société civile appelle les autorités de ces deux pays à privilégier le renforcement des dispositifs sanitaires plutôt que de suspendre les échanges transfrontaliers. Paul Zaidi, rapporteur général de la société civile du groupement de Bassungura, s'est confié à ce sujet à Marc Marofimbo.
Nous sommes tellement préoccupés par les conséquences économiques et sociales qui sont engendrées par la fermeture temporaire de la frontière de Kassindi-Bondwe entre la RDC et l'Ouganda. Nous estimons que cette décision a un impact immédiat sur les activités économiques qui constituent la principale source de revenus des nombreux ménages de la cité frontalière de Kassindi. Parce que vous savez, il y a des agriculteurs qui nous viennent de Kabarole, de Masambo, de Kotongo, de Mumbiri, de Luandumbi avec leurs produits champêtres et ils exposent ici au marché. Il y a des Ougandais qui arrivent, ils achètent ici les bananes, de l'huile. Il y a aussi des Congolais, après avoir vendu leurs marchandises ici, ils ont besoin de traverser de l'autre côté pour acheter les produits de première nécessité. Nous craignons maintenant que la prolongation de cette mesure n'aggrave davantage la précarité de certains ménages déjà fragilisés par les contextes économiques actuels, mais aussi Kassindi aujourd'hui regorge plusieurs déplacés de guerre. Nous appelons ainsi les autorités congolaises et ougandaises à renforcer plutôt les dispositifs de surveillance sanitaire tout en veillant à limiter les répercussions négatives de telles mesures sur les populations riveraines.
Pour sa part, la Fédération des entreprises du Congo FEC Kassindi demande aux commerçants de ne pas augmenter les prix des produits de première nécessité, le temps que les autorités évaluent l'impact de cette mesure de fermeture de cette frontière sur le terrain. Fixation de loyers en dollars américains, augmentation parfois jugée abusive, conflit entre bailleurs et locataires, manque de contrôle des agences immobilières. Face aux nombreuses difficultés qui entourent la location des maisons et appartements en RDC, l'Assemblée nationale a adopté mercredi une proposition de loi modifiant le régime de baux et loyers non professionnels. Le texte introduit plusieurs innovations destinées à mieux encadrer les relations entre propriétaires et locataires. C'est notamment le paiement du loyer en francs congolais, la création d'un registre national de baux et un meilleur contrôle du marché locatif. DDT avec Grâce Mzati, notre permanent au Parlement.
Adoptée à une très large majorité par les députés nationaux, la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 31 décembre 2015 sur les baux à loyer non professionnels entend répondre aux nombreuses difficultés observées dans le secteur locatif en RDC. Sur les 49 articles que compte la loi actuelle, 20 ont été modifiés afin de moderniser et de sécuriser les rapports entre bailleurs et locataires. Parmi les principales innovations figure l'obligation de fixer et de payer les loyers en francs congolais. Le texte prévoit également un encadrement plus strict du réajustement des loyers afin de limiter les augmentations arbitraires souvent à l'origine des conflits. La réforme instaure aussi un permis de bail ainsi qu'un registre national numérisé des baux destiné à améliorer le suivi et la traçabilité des contrats de location. Les contrats devront désormais être signés devant les services compétents de l'habitat. Autre innovation, les agences immobilières seront tenues d'obtenir un agrément avant d'exercer leurs activités. Initié par les députés Venance et Yangamboyo, élus de Moamba à Kinshasa, le texte sera transmis au Sénat pour une seconde lecture, conformément à la procédure législative en vigueur.
Parlons de cette nouvelle ère qui s'ouvre dans les relations entre l'École nationale d'administration ENA et le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, BCNUDH. Ces institutions ont signé hier vendredi à Kinshasa un accord de partenariat. Cet accord vise à renforcer la formation des futurs administrateurs congolais sur les droits de l'homme, la gouvernance et la protection des communautés vulnérables. Qu'est-ce qui sera fait concrètement dans le cadre de ce partenariat, Blaise Oshindani Kambala?
Le bureau conjoint s'engage à accompagner l'ENA dans l'élaboration des modules pédagogiques, des ateliers pratiques et des séminaires thématiques. Objectif, doter les cadres de demain d'outils solides pour intégrer le respect des droits fondamentaux dans la gestion publique. Dans son allocution, le directeur général de l'ENA a salué une étape décisive pour l'institution qui veut former une nouvelle génération d'administrateurs capables de conjuguer efficacité et respect des valeurs universelles. Tombola Moke.
Cette offre de partenariat va permettre de nous renforcer dans la réalisation des missions qui nous sont assignées par le gouvernement, mais ça nous renforce également dans l'exécution du sixième engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, relatif au renforcement de l'efficacité des services publics.
De son côté, le directeur pays du Bureau conjoint des Nations Unies a insisté sur l'importance de ces partenariats pour consolider la culture des droits humains au sein de l'administration congolaise. Docteur Patrice Vahar.
Et c'est très intéressant pour un pays comme la République démocratique du Congo d'envoyer une leçon et un message clair que le conflit n'est pas une fatalité. On peut sortir d'un conflit, transformer le conflit avec un certain nombre de valeurs vécues. La souffrance ne devient donc plus une fatalité.
La cérémonie s'est conclue par la signature officielle de documents suivie d'un échange symbolique de dossiers et d'une photo de famille.
Femmes parlementaires, représentantes de la société civile, expertes et partenaires institutionnels ont clôturé hier vendredi à Kinshasa un atelier de réflexion de 2 jours sur le renforcement du rôle politique des femmes dans les processus de paix en République démocratique du Congo. Les discussions ont porté sur les mécanismes d'éveil, de mobilisation et de plaidoyer susceptibles d'accroître l'influence des femmes dans les espaces de décision. Ce temps de débat et de questions-réponses a permis aux participantes d'identifier des pistes d'action concrètes pour une participation plus effective des femmes aux initiatives de paix.
Cette dernière a permis aux participants de formuler plusieurs recommandations pour renforcer la participation des femmes au processus de paix. Parmi elles, le renforcement du leadership féminin, la création des cadres permanents de concertation et un meilleur suivi des engagements pris en faveur des femmes. La députée nationale Christelle Vuanga appelle à transformer les recommandations en actions concrètes.
Un rapport final qui doit être non seulement validé, mais aussi présenté aux différents acteurs, notamment l'Assemblée nationale et les Sénat, les institutions ainsi que les organisations de la société civile.
Pour la MONUSCO, Madame Charlotte Songé affirme que l'implication des femmes reste indispensable pour une paix durable.
Il s'agira de mettre à la disposition des femmes, de la base jusqu'au sommet, ces textes-là, de ces mécanismes.
La société civile, pour sa part, plaide pour une plus grande cohésion entre les organisations féminines.
Nous avons besoin de voir une solidarité féminine qui n'est pas seulement provinciale, mais une solidarité nationale où toutes les femmes doivent s'approprier les efforts.
Les participantes se sont engagées à poursuivre le plaidoyer et à renforcer leur collaboration afin d'accroître durablement l'influence des femmes dans le processus de paix en RDC.
La coopération militaire entre Kinshasa et Prague prend forme avec un nouveau partenariat. L'ambassadeur tchèque Petr Silipa et le vice-premier ministre de la Défense nationale Guy Kabombo ont échangé sur cette question au mardi à Kinshasa. Ils ont identifié plusieurs axes de collaboration, notamment la formation des pilotes congolais, le perfectionnement du personnel militaire, aussi la fourniture d'équipements destinés aux forces aériennes congolaises. Des détails avec Blaise Ndonga.
Les diplomates tchèques a salué l'aboutissement de cette coopération, fruit des échanges engagés lors de la dernière mission officielle de Guy Kabombo Mwadia Vita en République tchèque. Il s'est montré confiant quant à l'avenir de cette collaboration, appelée à se renforcer entre les ministères de la Défense des deux États. Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale s'est dit satisfait des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de cet accord. Il estime que ces partenariats viennent notamment consolider les piliers formation du trinôme FEC et s'inscrit dans la dynamique de redynamisation et de montée en puissance des forces armées de la RDC. À travers une diplomatie militaire active, ces membres du gouvernement souminois attendent consolider les relations bilatérales de la RDC avec ses partenaires stratégiques tout en contribuant au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées de la RDC.
Préparer les finalistes du secondaire à mieux affronter les épreuves nationales, c'est le principal objectif que poursuit la société Futurist Vision à travers sa solution informatique dénommée Yekola Exeta. Entendez, apprends ou instruis-toi sur les examens d'État. Ce logiciel qui est déjà accessible à travers toute l'étendue du territoire national permettra aux candidats à ces épreuves de maximiser leurs chances de réussite. D'après le responsable de ce logiciel, il s'agit d'une solution venue répondre à une préoccupation majeure qui traumatise des milliers d'élèves depuis plusieurs décennies. Claudine Lépéa pour les détails.
Les développements de ces logiciels tombent à pic, selon son responsable qui évoque l'accès au numérique comme l'un des facteurs de la croissance économique en RDC. Les finalistes sont désormais à même de mieux préparer leurs examens à l'aide d'un outil intelligent. Christian Mutombo, responsable du logiciel Yekola Exeta.
L'avenir de demain repose par rapport à l'éducation que l'élève peut recevoir aujourd'hui. Ça s'est concédé que non, pourquoi ne pas doter l'élève d'une solution qui lui permettra de bien se préparer, d'être bien équipé pour affronter ses épreuves d'examen d'État. C'est vraiment la raison même pour laquelle nous avons mis sur place Yekola Exeta pour une bonne préparation.
Contrairement aux solutions déjà utilisées dans les secteurs de l'éducation, Yekola Exeta apporte plusieurs spécificités et l'accès à la plateforme s'est fait en quelques clics.
Je veux juste vous citer quatre grandes spécificités qui se retrouvent dans Yekola Exeta. Il y a tout un archivage des items des années antérieures de plusieurs années. Donc les enfants auront droit à ces archivages de là des items pour leur permettre de s'exercer, de travailler en temps et en contre-temps, tout en leur donnant des correctifs. C'est comme si vous étiez en train de passer cet examen d'état. Les logiciels vous donnent la correction en vous disant que non, ici, la bonne réponse était ça, ça c'est une mauvaise réponse. Nous avons mis en place des livres et des exercices par rapport aux options de chaque élève.
Notez que la société a également développé d'autres solutions similaires pour les finalistes du primaire.
Parlons de ces nouvelles parutions. La force navale de la République démocratique du Congo doctrine enjeux stratégiques et perspectives de puissance hydromilitaire à l'horizon 2035 et le courage du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un modèle de la résistance. Ce sont des titres de deux nouveaux ouvrages qui viennent d'être lancés sur le marché du livre. Récemment portés sur les fronts baptismaux à Kinshasa, ces deux livres ont été rédigés par le professeur Alain Alissa Job Sambokira et sont préfacés respectivement par le professeur Émile le Bongili et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabané. Que retenir de ces deux ouvrages, Jean-Désiré Kanyama?
L'auteur de ces deux ouvrages, le général Alain Alissa Job Sambokira, met en lumière l'importance stratégique des eaux congolaises et la puissance hydromilitaire de la RDC.
C'est une question de souveraineté. Et je voulais montrer l'importance de nos eaux dans le cadre de la sécurité, mais également, j'ai insisté sur son développement économique. Cela pouvait aider notre pays.
Et face aux enjeux sécuritaires et de développement, il tire la sonnette d'alarme.
Vous savez que après la guerre des minerais que nous avons, c'est la guerre des eaux. Alors, nous sommes censés de former les personnels dans la diplomatie des eaux. Puisque je sais que le monde et d'autres pays vont réclamer des eaux auprès de notre pays.
Dans son second livre, le professeur Alain Alissa Job Sambokira parle du courage du président Félix Tshisekedi face aux menaces externes et internes.
J'ai dit que tout le monde doit s'apprendre à l'école du courage, à l'école de la résistance, pour qu'on arrive, même si on est dans des situations difficiles, même si on est dans des moments impossibles, qu'on puisse quand même manifester un courage à travers la gestion avec une bonne gouvernance. Le président Félix Tshisekedi a démontré un courage exceptionnel. C'est toute une école pour moi.
Actualité internationale.
Des combattants djihadistes affiliés à l'État islamique ont tué 3 soldats mercredi dans le nord-est du Nigeria. Les djihadistes ont pris d'assaut une base militaire située dans la ville de Gajegama, à 50 km de la capitale de l'État de Borno. Ils sont parvenus à chasser les soldats à l'issue d'un intense échange de tirs qui a fait 3 victimes du côté de l'armée. Une source du service de renseignement de la région confirme le bilan et indique que la base avait été entièrement rasée par les combattants djihadistes après que les troupes ont été contraintes de se retirer.
L'invité.
Il s'agit du point focal au Nord Kivu de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité. Rachel Omouloulou nous parle du plaidoyer de sa structure pour la restauration de la paix, mais aussi pour l'implication de ses représentantes dans le processus politique en cours entre les gouvernements congolais, rwandais et l'AFC M23. Cette structure a adressé à ce sujet mardi une note de plaidoyer au président de la RDC, à la MONUSCO, ainsi qu'aux différents acteurs impliqués dans les efforts de paix. Rachel Omouloulou s'entretient avec Bernard Denyangui.
Madame Rachel Mouloulou, bonjour.
Bonjour, papa journaliste.
Alors, vous venez de finaliser votre note de plaidoyer. Exactement, qu'est-ce que vous demandez par cette note-là?
Nous avons finalisé et envoyé, bien sûr, ces plusieurs notes adressées au chef de bureau de la MONUSCO, à la CIRGEL. Il y a aussi la note qui est adressée à OCHA, puisque la situation humanitaire aussi n'est pas bonne. Il y a beaucoup de vulnérabilités pour le moment. Nous nous sommes adressés aussi au gouvernement central pour parler aussi des conséquences des conflits à répétition. L'objectif, c'est contribuer à la participation de la femme, donc renforcer la participation de la femme dans les processus de paix et sécurité. Nous savons qu'il y a insuffisance des femmes aux tables de négociation. Voir comment les femmes peuvent participer à tous les niveaux, que ce soit au niveau micro, que ce soit au niveau macro, donc partout, à commencer même par la base. Vous savez, l'Est, chaque semaine, nous sommes en train d'apprendre, il y a toujours des morts, des tueries. Les femmes ne peuvent pas continuer à supporter ça. Nous demandons la paix. Nous voulons passer à l'étape du développement, pas continuer à pleurer chaque jour.
Vous avez parlé de plusieurs notes, ou bien c'est la formulation d'une même note, mais des copies conformes, séparées.
C'est la même d'une façon générale, puisque dans toutes les notes, ça concerne la participation de la femme dans la paix et la sécurité. Maintenant, la formulation des recommandations diffère. Par exemple, là où nous nous adressons au chef de l'État, demandant la paix durable, demandant la protection de la population, demandant aussi les contenus des accords, il faut les vulgariser. La population d'une façon générale n'est pas informée des contenus des accords, n'est pas informée des contenus du processus même de la paix. Au niveau humanitaire, la situation de retourner des guerres n'est pas aussi bonne. Donc, il y a une extrême vulnérabilité. Les femmes qui subissent toujours des violences chaque jour. Pour aller au chat, elles subissent des violences sexuelles. Donc, il y a des efforts qui sont fournis par les gouvernements, par les acteurs de paix, par les systèmes des Nations Unies, par les autres, et tout le monde, même les organisations féminines, fournissent beaucoup d'efforts. Nous, de notre part, de la Synergie Femmes, Paix et Sécurité, nous continuons à faire des plaidoyers. Pendant les préparations des réunions de ces plaidoyers, il y a même la population pygmée, les femmes pygmées qui ont montré leur niveau de souffrance et en parlant des massacres qui est arrivé à Beni.
Au-delà des plaidoyers que vous faites déjà, vous voulez jouer quel autre rôle comme Synergie des femmes pour la paix?
De voir la femme participer. La femme puisse secourir ceux qui souffrent en continuant à être actrice. Pas seulement rester victime, mais nous voulons élever le taux de la participation de la femme dans les processus de paix et sécurité.
Ce sera quelle autre étape vous voulez entreprendre? Vous avez finalisé le script de notes, vous les avez envoyées. Et après, qu'est-ce qui va suivre?
Et après ce qui va suivre, nous allons faire le suivi et l'évaluation de ces notes. Nous avons aussi les plans d'action, puisque en plus des notes de plaidoyer, nous avons envoyé aussi les plans stratégiques de la Synergie des femmes pour la paix et la sécurité, pour que les partenaires, soit les cibles de notre plaidoyer, puissent aussi savoir ce que nous faisons. Nous avons plusieurs activité à faire, puisque nous sommes en train de nous référer à l'outil de la résolution 1325. Au niveau de la participation, nous allons continuer les suivis. Au niveau de la protection, au niveau de la prévention, au niveau du relèvement, il y a aussi des activités d'autonomisation des femmes. Pour que les femmes puissent mieux participer, il faut qu'elles soient aussi autonomisées. Nous voulons lutter contre les conséquences de la guerre, les conséquences des conflits. Nous sommes en train de souhaiter que les acteurs et tous les leaders communautaires puissent réfléchir par rapport aux racines de la guerre. Peut-être en ayant un taux élevé de femmes qui vont participer aux tables de négociation, nous aurons la paix.
Madame Rachel Mouroul, merci.
Merci aussi, papa journaliste.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.